Bien, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Je vais me permettre d'interrompre les commandements de Dieu pour une séance afin de vous parler d'un voyage que j'ai pu faire dernièrement en Andalousie avec les anciens élèves de mon école. L'Andalousie est un pays de l'Europe très intéressant, et notamment très intéressant parce que ça a été le dernier pays de la Reconquête. Et les Espagnols disent avec raison, la reconquête. Ces Espagnols disent avec raison la reconquête, c'est-à-dire qu'il y a eu une conquête avant, que c'est une reprise d'un terrain qui avait été perdu, soit dit en passant, à cause des divisions des chrétiens. Il y avait un gouvernement hérétique, des provinces qui n'étaient pas hérétiques. Le tout a fait une catastrophe, c'est-à-dire la conquête de la plus grande partie de l'Espagne par les musulmans au 8e siècle. Donc nous sommes allés en Andalousie. Nous avons un pays remarquable, au paysage parfois extraordinaire. Il ne faut pas oublier que si Séville est à 6 mètres d'altitude, le plus haut sommet de la Sierra Nevada est à plus de 2500 mètres. Donc nous avons vu un pays très 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 escarpé, très pittoresque, et un pays très attaché au christianisme, et notamment à la Sainte Vierge, qui trône partout dans toutes les églises, et voire même dans toutes les rues. J'ai compris à ce sujet, à ce propos, ce que l'on appelait les Immaculées Conceptions. En effet, plusieurs tableaux de Murillo s'appellent l'Immaculée Conception. Or, Murillo vivait au XVIIe siècle, soit près de 200 ans avant la proclamation du dogme de l'Immaculée. En quoi consiste l'image de la Vierge de l'Immaculée Conception ? Eh bien, c'est simplement une transcription de la vision de l'Apocalypse. La Vierge est représentée en général sans enfant, vêtue d'un habit de lumière, c'est-à-dire d'un manteau somptueux, les pieds sur un croissant de lune et la tête couronnée de 12 étoiles, les 12 mêmes étoiles d'ailleurs qui règnent sur le drapeau européen. Donc c'est ça que l'on appelle des Immaculées Conceptions. Il est symptomatique que cette croyance populaire était très répandue 200 ans avant la position officielle de l'Église. Mais si je voulais vous parler de cela, c'est surtout à cause de l'excursion à la cathédrale de Cordoue. Comme on le représente souvent, la cathédrale de Cordoue était une ancienne mosquée, couverte de colonnes, une merveille, dans laquelle, brusquement, du temps de Charles Quint, on a décidé de faire une grande cathédrale, elle, dans le style baroque, qui prend place au milieu de la mosquée, on a laissé plusieurs salles pleines de colonnes. Alors, il y a plusieurs choses à remarquer. La première, c'est que toutes ces colonnes, en principe, viennent des temples grecs romains de toute la région que les musulmans ont pris pour faire leur mosquée. La seconde est beaucoup plus intéressante. C'est que cette mosquée de Cordoue a été faite après destruction d'une cathédrale wisigothe qui auparavant était sur place et dédiée à Saint-Vincent. L'évêque de Cordoue, lui, l'a fait remarquer. Et alors que des musulmans actuellement étaient en train de redemander pour leur usage la mosquée de Cordoue, il a fait faire des fouilles et notamment dans le pavé même de la cathédrale a mis en lumière des mosaïques byzantines, des mosaïques wisigothes qui sont dans le souterrain de la cathédrale. C'est donc les musulmans qui ont rasé la cathédrale pour en faire une mosquée, et lui n'a pas rasé la mosquée mais a fait une cathédrale au milieu. Et je voudrais vous lire à ce propos les phrases significatives qui sont dans le petit guide qui est disponible en français, remis à l'entrée de la cathédrale. Je lis. La cathédrale de Cordoue n'est pas seulement un monument ou un temple interculturel, elle n'est pas non plus une mosquée, mais l'église mère du diocèse. Le terme cathédrale vient de cathèdre, la chaire de l'évêque, depuis laquelle il exerce sa fonction de berger de son peuple. La cathédrale est l'image par excellence de l'Église du Christ qui prêche, chante et adore partout sur la terre. La valeur et la beauté de la cathédrale de Cordoue ne résident pas dans la magnificence de son architecture, mais dans la succession apostolique de l'évêque se présentant aux fidèles comme le symbole de leur service pastoral et de l'unité de l'Église, fondée sur la parole de Dieu, les sacrements et la communauté croyante. L'évêque poursuit. La cathédrale est vivante, elle est le témoin de notre histoire, elle est telle un livre qui fait découvrir à celui qui saura le lire le message de l'autel, des nefs, des retables. Elle nous apprend à connaître et à aimer Dieu, le monde et l'être humain. Et il continue. Sous toute cathédrale, il y a toujours un lit de cathédrale caché. Dans le cas de Cordoue, la tradition dévoile les origines wisigothes de la construction. Ceci a été confirmé par des fouilles archéologiques. Nous pouvons admirer ces vestiges dans le musée Saint-Vincent, ainsi que sur place, où des restes de mosaïques nous rappellent l'ancien temple chrétien. Ces restes de mosaïques, nous les avons vus, elles ne sont pas sans rappeler tout ce qu'on voit en Terre Sainte sur les mosaïques byzantines. La basilique Saint-Vincent a été expropriée et détruite pour édifier la mosquée à sa place. C'est un fait historique qui remet en question le soi-disant idéal de tolérance qui existait à Cordoue à l'époque. Il s'agissait de l'église principale de la ville, la basilique des martyrs du VIe siècle, qui n'a pas été oubliée et qui continue à être vénérée par les chrétiens des siècles après sa destruction. Je répète que cela est écrit par l'évêque de Cordoue, actuellement en 2008, sur un papier qui est donné à l'entrée de la dite cathédrale. Et l'évêque continue. Après l'irruption islamique à Cordoue, les dominateurs musulmans détruisent l'église des martyrs de Saint-Vincent et en 785 commence la construction de la mosquée, bâtisse qui sera considérée comme le sanctuaire le plus important de tout l'islam occidental, à une époque où Cordoue était la capitale du territoire qui se prolongeait jusqu'au fleuve Douro et qu'on appelait Andalus. Cette enceinte impressionnante à vocation religieuse mais aussi sociale a connu plusieurs phases après sa construction. Et l'évêque termine. Si l'ancienne mosquée du califat d'Occident est la plus ancienne cathédrale d'Espagne, patrimoine historique de l'humanité, n'est pas un tas de ruines aujourd'hui, c'est grâce à l'action de l'Église à travers le chapitre de la cathédrale. Une des missions de l'Église a toujours été de veiller à l'art et à la culture et de les inspirer. La visite de la cathédrale peut réveiller l'exigence d'une beauté encore plus grande sur laquelle le temps n'a pas de prise, car la beauté, tout comme la vérité et la bonté, sont un antidote contre le pessimisme, une invitation à aimer la vie, un soubresaut qui provoque la nostalgie de Dieu. Je pense que cela valait quand même une mention auprès des auditeurs de Radio Silence de voir tous les mensonges que l'on dit. Je ne me suis pas contenté de cela. J'ai lu le livre, le fameux livre qui a fait tellement parler de lui, le livre de Guggenheim sur Aristote au Mont-Saint-Michel. C'est un livre épais. Il y a 206 pages, plus 50 pages de notes et 18 pages de bibliographie. C'est un article, donc c'est ce livre, qui remet en question toute la soi-disant base musulmane de l'Europe actuelle. Un président de la République a dit sur ces bases chrétiennes et musulmanes, n'exagérons rien, lisez le livre de Guggenheim qui n'est pas toujours très facile à lire. Mais j'ai trouvé, alors sur l'homme nouveau, un article signé de Jacques Herse que je vais vous dire. Décidément, cet exposé ne m'a pas demandé beaucoup de peine, je me contente de lire. Alors, l'héritage de Jacques Herse qui dit « Au printemps dernier, les éditions du Seuil publiaient un article de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, où l'auteur montre de façon magistrale que l'héritage des Grecs de l'Antiquité avait, pour l'essentiel, été transmis en Occident, non par des savants musulmans, mais par des chrétiens d'Orient et par les clercs de nos monastères et de nos écoles cathédrales. La démonstration sans faille, sur 206 pages avec 50 pages de notes, démonstration sans faille enrichit ce que nous pouvons savoir du travail intellectuel au Moyen-Âge. Tout aussitôt est née une polémique et le bruit ne s'en est pas apaisé. C'est un procès d'intention. Remettre en cause ce qui nous a été longtemps enseigné et que ce que l'on peut lire encore dans les grands médias est interdit. Mais ceux qui se donnent la peine de rechercher, ou plutôt ne le veulent pas, pourraient se rappeler que Byzance chrétienne, n'est-ce pas, a survécu quelques 1000 ans à la chute de Rome, que ses lettrés ont beaucoup travaillé, transmis, et que chaque année des hommes d'Occident venaient s'y installer, s'y instruire. Ce livre remet en question ce que nos livres d'histoire nous ont pendant longtemps enseigné, on s'en étonne. C'est oublier que les manuels d'histoire de l'école républicaine sous Jules Ferry et longtemps après n'ont été ni pensés ni écrits par des historiens, mais par des agents du pouvoir, autrement dit agents d'une certaine propagande. et cette même propagande, ce même acharnement à dénigrer le Moyen-Âge inspire les producteurs, entre guillemets, de pointe à la radio et à la télévision. Malheureusement, comme le disait Rémi Braque dans un livre sur le Moyen-Âge, n'importe quel beau parleur médiatique peut faire en une minute mille fois plus pour perpétuer le faux que 10 vies de rats de bibliothèque pour le débasquer. Donc, tout cela au moment où on parle d'Europe chrétienne est, je pense, utile à dire. J'ajouterai que j'ai appris que l'écriture arabe avait été élaborée avant même la naissance du prophète par des Syriens en grande partie chrétiens. On peut ajouter que l'islam n'a rien ajouté, ni à Aristote, ni aux évangiles, et que son apport à la science reste hypothétique. Le zéro, un bel apport, vient des Indes et non pas de l'islam. Donc, cela montre, premièrement, qu'il y a partout des évêques courageux. Deuxièmement, que nous ne devons pas hésiter à réagir devant des contre-vérités historiques. Quatrièmement, de ne pas rougir devant l'islam qui nous aurait civilisés, ce n'est pas vrai. Quatrièmement, de se rappeler que tout le reste a été donné par surcroît. L'Europe, à l'Europe chrétienne, terre des saints, terre des moines, tout le reste a été donné par surcroît. La science, la puissance, l'art et tout. Mais devenu infidèle au XVIIIe siècle en particulier, son état est devenu pire que le premier, celui du paganisme, comme il a été écrit dans l'Évangile. Notre devoir est donc avant tout de chercher à nouveau le royaume de Dieu et la justice, ni dans les écrits de Karl Marx, ni dans les élucubrations libéraux-financières, mais entre autres dans les dernières encycliques du pape et dans les commandements de Dieu que nous recommencerons à méditer dès le mois prochain. Je vous remercie de votre attention.